Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Cette semaine, aux États-Unis, nous avons célébré la fête du Thanksgiving. L'action de grâce, qui eut lieu pour la première fois le 10 janvier 1799 au Canada, est considérée comme un jour de remerciement à Dieu pour une récolte abondante et pour la paix dans le pays. Dès 1879, on a commencé à célébrer l'action de grâce chaque année, parfois en octobre, parfois en novembre, mais c'est en 1957 que la célébration du jour de l'action de grâce a été fixée de façon permanente par le Parlement du Canada au deuxième lundi d'octobre. Et cela devait être un jour ou une journée pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant des bienfaits dont jouit le peuple du Canada. La fête du Thanksgiving aux États-Unis est célébrée le dernier jeudi de novembre, supposément en l'honneur des grâces divines reçues. Elle est souvent associée au souvenir de la moisson qui assura la survie des premiers colons puritains arrivés en Virginie en 1620. Le 6 septembre 1620, les premiers pèlerins puritains britanniques embarquèrent à bord du Mayflower, à destination de la Virginie. Après avoir accosté à Cape Cod en novembre et exploré la région, une centaine de colons environ s'installèrent un peu plus au nord et fondèrent la ville de Plymouth dans le Massachusetts. Le premier hiver fut particulièrement rigoureux et la moitié des colons ne survécurent pas. Mais au printemps suivant, des Indiens Wampanoag leur offrirent de la nourriture et leur apprirent à pêcher, à chasser et à cultiver le maïs. À l'automne suivant, en novembre 1621, le gouverneur William Bradford décréta 3 jours de prière et de fête pour célébrer la première récolte. Des dindes sauvages et des pigeons furent servis à cette occasion. La coutume de l'action de grâce se répandit ensuite de Plymouth vers d'autres colonies de la Nouvelle-Angleterre. En 1830, l'État de New York instaura un jour d'action de grâce. D'autres États du Nord adoptèrent cette fête, mais il fallut attendre 1863 pour que le président Lincoln décrète le dernier jeudi du mois de novembre jour de remerciement et d'éloge à Dieu. L'un des plats typiques lors de cette célébration est la dinde rôtie, farcie. La dite volaille s'accompagne typiquement d'une purée traditionnelle ou de patates douces et de potiron, d'une sauce aux airelles préparée avec des airelles fraîches, des oranges et du sucre, et d'épis de maïs grillés. La farce est généralement faite d'œufs, de lait, de persil, d'oignons, d'herbes, de croûtons de pain, de baies, de noix, de jus de viande, de maïs en grains et d'aromates. Autre plat typique, le dessert. La fameuse tarte à la citrouille, avec une base de fond de tarte, de la citrouille, du lait, des épices et un mélange d'œufs et de sucre, le tout souvent agrémenté d'une petite crème fouettée. Et également une tarte aux pacanes et au sirop d'érable. Bien délicieux et appétissant, n'est-ce pas? Le Thanksgiving est souvent une fête familiale, accompagnée de beaucoup de rires, de bonne humeur et de réjouissance. Mais Dieu doit être au cœur de cette célébration pour qu'elle revête réellement tout son sens. Elle a été créée pour lui, pour le remercier de ses bénédictions. Depuis 1947, les producteurs de volailles offrent traditionnellement au président américain en exercice une dinde, et même 2 maintenant, lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche, la veille du jour de l'action de grâce. Celle-ci était à l'origine cuisinée et mangée. John Kennedy aurait été le premier président à préférer garder la dinde, même si à l'heure actuelle les doutes subsistent quant à la toute première grâce présidentielle. Selon les discours, Lincoln aurait refusé de sacrifier la dinde chouchoute de son fils Tad. En 1989, George Bush, père, gracia officiellement l'oiseau qui lui avait été offert. Et dès lors, la tradition est restée. Chaque président a épargné la volaille au lieu de la découper. Depuis 2005, l'oiseau élu était accueilli en star au parc de Disneyland, où il paradait avant de couler des jours heureux dans l'un des ranchs du parc. Mais depuis 2012, cependant, les chanceuses iront finir leur jour dans les jardins de Mount Vernon, la résidence du premier président américain, George Washington, située non loin de la capitale qui porte son nom. Hélas, de nos jours, pour bien des familles, aussi bien en Amérique qu'au Canada, la fête n'est plus qu'un prétexte pour faire bonne chère et se saouler en regardant un match de football ou du sport quelconque, sans penser à Dieu le moins du monde, ni le remercier de tous ses bienfaits. L'ingratitude d'un grand pays est toujours de sinistres présages. Elle est comme le grain par lequel la tempête s'annonce au regard exercé du marin dont le navire va être mis à une terrible épreuve. C'est ce qu'écrivait en 1867 Émile de Girardin dans ses Pensées et Maximes. C'était là un sinistre présage non seulement pour l'Amérique mais pour pratiquement tout l'Occident, y compris la France, la Suisse et la Belgique. Pour les membres de l'Église, la fête du Thanksgiving est un jour très spécial, marqué de gratitude, d'une profonde reconnaissance envers notre grand Dieu d'amour. Sommes-nous par définition des êtres reconnaissants? Éprouvons-nous naturellement une profonde gratitude pour tout ce que nous avons? Quand nous agissons bien, est-ce désintéressé? Ou ne cherchons-nous pas parfois même inconsciemment à recevoir quelques louanges ou récompenses ou quelque chose en retour? L'ingratitude est très souvent la récompense de nos services, mais elle ne doit pas arrêter dans sa course l'homme qui peut se rendre utile. Quelque belle que soit une action, si elle est fille de l'intérêt, elle perd sa principale beauté et elle n'a plus le même prix. C'est ce qu'écrivit en 1721 David Augustin de Bruet dans ses Amusements de la raison. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons? Christ a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » Actes 20, 35. Cela devrait être notre motivation. C'est une philosophie. Une ligne de vie qui transcende et de loin notre propension humaine typique. Et cette ligne de vie a fort à faire avec notre vie chrétienne qui se doit, elle, d'être une vraie action de grâce. Nous devrions, par exemple, toujours pratiquer la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, 12. C'est l'essence même de la loi et du message divin des prophètes. L'ingratitude empoisonne souvent les bienfaits dans leur source. Son effet le plus funeste est de décourager trop souvent les âmes faibles, de changer leur générosité en méfiance et leur sensibilité en indifférence, écrivit en 1816 Louis-Philippe de Ségur. Après avoir obtenu le possible, les ingrats demandent l'impossible pour donner un prétexte à leur ingratitude. Écrivit en 1853 Adolphe Doudetot dans « 10 épines pour une fleur ». Anne Baratin écrivit en 1913 que « la vie se charge souvent de payer les dettes de l'ingratitude et sans oublier les intérêts ». Elle avait raison. Nous récoltons ce que nous semons, c'est biblique, n'est-ce pas? Et nous récoltons ce que nous semons parfois bien des années plus tard. La gratitude est une attitude et une ligne de vie. Je voudrais que nous nous reportions ensemble à Luc chapitre 17, verset 11. Luc chapitre 17 et le verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Un seul revint pour remercier Christ, un étranger. Les 9 autres, des Israélites, ne daignèrent même pas revenir, comme si leur guérison avait été indue. Ils étaient ingrats. Un aspect parfois oublié de la fête des tabernacles est celui d'une profonde gratitude envers Dieu. Il nous ordonne de nous réjouir. Mais c'est aussi afin de nous souvenir des bénédictions qu'il nous a accordées et continue de nous accorder. Nos offrandes reflètent, elles aussi, notre degré de gratitude. Sommes-nous, frères et sœurs, des êtres reconnaissants, exprimant souvent leur gratitude? Ou avons-nous plutôt tendance à rouspéter, à nous plaindre? Quand c'est le cas, c'est généralement que le « moi » cherche avant tout à se satisfaire et que nos pensées sont trop souvent centrées sur nous-mêmes et notre propre satisfaction et gratification. Or, comme l'écrivait en 1800 Pierre-Claude Victor Boist, l'ingratitude est comme la rose qui pique ceux qui la cultivent. Il y a dans l'ingratitude une forme de trahison, je trouve. Quand nous sommes ingrats, nous trahissons en somme notre Père Céleste et Christ et leurs valeurs. Nul doute que Judas, qui livra Jésus, souffrait de ce mal. Il aurait dû pratiquer ce que Henri Frédéric Amiel écrivit en 1869 dans son journal intime. Convertir les amertumes en bénignité. Le fiel des humains en miel de mansuétude, les ingratitudes en bienfaits, c'est la sainte alchimie des belles âmes. Cela devrait nous décrire. Mais il est clair que Judas était un ingrat, méprisant la voix, celle de Christ, accordant à l'argent plus d'importance qu'aux valeurs spirituelles. Je voudrais que nous nous reportions à Jean chapitre 12, verset 1, Jean chapitre 12 et le verset 1. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres. Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. L'ingratitude est à l'amitié ce que la banqueroute est au commerce, écrivait en 1708 François Salva de Montfort. L'ingratitude est un mal qui ronge nos pays occidentaux nantis plus que les autres pays dans le monde. Il y a dans nos peuples bien peu d'actions de grâce, rarement la moindre reconnaissance. Judas ne sut pas réellement se lier d'amitié avec Christ, et il laissa son amour de l'argent voiler son jugement. Il ne fut pas en mesure d'apprécier ce que Christ faisait. Il était le trésorier du groupe, et il n'approuvait pas la manière dont Christ gérait ses finances. L'ingratitude est ce qui blesse le plus une âme reconnaissante et noble, écrivit en 1808 Hippolyte de Livry dans ses Pensées et Réflexions. Christ était une âme reconnaissante et noble. Et nul doute que l'attitude de Judas le blessait. Sommes-nous, nous aussi, des âmes reconnaissantes et nobles? Ne payez pas l'ingratitude, ou ne payez pas d'ingratitude le bien que l'on vous fait, disait Victor Hugo. Judas fit précisément cela. Il ne sut pas apprécier Christ à sa juste valeur. Pas plus qu'il ne sut apprécier tout le bien que Christ faisait, même quand il accepta que Marie oigne ses pieds d'un parfum de grand prix. Marie avait la tête où il fallait, mais pas Judas. Ce genre d'avarice mal placée est courante autour de nous. La fête d'Action de grâce, comme on l'appelle au Québec, a lieu une fois par an. Une fois par an. Pour nous, ce devrait être une attitude de tous les jours, un mode de vie. Avec quelle fréquence faisons-nous une action de grâce? Et quelle est, en fait, notre meilleure action de grâce aux yeux de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ? Dans le judaïsme, la gratitude fait partie intégrante du culte du vrai Dieu. Les Juifs remarquent que les Écritures abondent en gratitude. Ils citent par exemple le psaume 30 et le psaume 9. Reportons-nous à ces psaumes, juste un ou deux versets pour chaque. Le psaume 30, pour commencer, le psaume 30. Psaume 30 et le verset 11. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne sois pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Psaume 9. Et le verset 1, psaume 9, verset 1, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Les Juifs, dans le schéma, incorporent l'idée de gratitude en citant Deutéronome 6, 5. Nous allons nous y reporter, Deutéronome chapitre 6 et le verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force plus exactement. Ce doit être notre première action de grâce, frères et sœurs. L'homme de par nature n'est guère reconnaissant, Comme le disait Diderot dans « La religieuse », « Souffle, souffle, vent d'hiver, tu n'es pas si cruel que l'ingratitude de l'homme. » Et comme le dit un vieux proverbe indien, « Obliger un ingrat, c'est asperger la mer d'eau de rose. » Autrement dit, cela ne donne que peu de résultats. Il y a un vieux proverbe latin qui dit, lui, « Obliger un ingrat, autant verser de l'eau dans un panier. » Cela rejoint la même idée. Et cela rejoint un autre proverbe danois qui dit que « Rien ne s'oublie plus vite pour un ingrat qu'un bienfait. » Est-ce notre cas? Est-ce que nous oublions facilement, rapidement, les bienfaits que nous recevons? C'est humain. Un autre vieux proverbe latin dit « Remerciez l'ingrat lorsqu'il vous débarrasse de sa présence. » Que devons-nous faire pour avoir et maintenir un esprit de gratitude? J'ai plusieurs suggestions pour vous aujourd'hui, frères et sœurs. Premièrement, nous devons être conscients du fait que dans l'ensemble, nous autres humains, nous sommes plutôt ingrats. Il suffit de se remémorer l'histoire d'Israël, qui était plutôt l'exemple du contraire. Deutéronome chapitre 32, verset 18. Nous étions dans le Deutéronome, quelques pages plus loin. Deutéronome chapitre 32 et le verset 18. Moïse chanta ce cantique devant tout Israël assemblé. Et voici ce que son cœur exprima. « Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. » Méditons ces quelques mots. Christ est-il notre rocher? Nous appuyons-nous entièrement sur lui? Ses paroles sont-elles notre nourriture quotidienne? Si nous voulons être reconnaissants, il faut que Christ soit notre meilleur ami, un ami indispensable, notre compagnon de chaque instant, notre force, notre tour haute, comme il l'était pour David. Saül, le premier roi d'Israël, était le genre d'homme qu'Israël voulait. Et Dieu le savait. Il avait une très bonne allure. Il était grand, il était beau. Il était probablement, comme on le dit de nos jours, charismatique. Et Dieu l'avait élevé. Il l'avait béni. Or, Saül ne sut pas apprécier l'honneur que lui fit l'Éternel. Il s'habitua rapidement à son nouveau statut. Il eut peu de jours d'action de grâce. On s'habitue vite. 1 Samuel chapitre 15, verset 17. 1 Samuel chapitre 15 et le verset 17. Samuel le prophète dit à Saül, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Vous connaissez le restant. Israël, on s'en souvient, n'avait guère pour habitude d'éprouver de la gratitude pour Dieu. Exode chapitre 17 et le verset 1. Exode chapitre 17 et le verset 1. « toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Tsin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire !» Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte ? Pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux !» C'était plutôt le comble de l'ingratitude. Le peuple disait ces choses en dépit de tous les miracles que l'Éternel avait accomplis pour lui. On se souviendra aussi de l'exemple de Gédéon. Gédéon avait été juge en Israël. Avec l'aide miraculeuse de l'Éternel, le peuple avait été victorieux contre Madian et Amalek et tous les princes de l'Orient. Ce qui est relaté dans Juges 6, 7 et 8. Mais que se passa-t-il ensuite ? Combien de temps dura leur action de grâce ? Juges chapitre 8 et le verset 33. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal. Et ils prirent Baal-Bérite pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbaal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Ingratitude. David eut lui aussi un dérapage. Il y eut un moment dans sa vie où il s'éloigna dangereusement de l'Éternel. Cessa d'être proche de lui et succomba à la tentation, cessant de donner la priorité à sa formation de serviteur de l'Éternel et de futur roi. Non seulement il commit l'adultère, mais il ordonna aussi le meurtre de l'un de ses plus fidèles soldats, Uri, mari de Bathsheba. À ce stade, on peut dire qu'il était tombé bien bas. Et Dieu lui envoya Nathan, le prophète. 2 Samuel chapitre 12. Et le verset 7, 2 Samuel chapitre 12, et le verset 7. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là, vous connaissez ce qu'il y a avant. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'irai encore ajouter. » En d'autres termes, l'Éternel était prêt à accorder à David même encore d'autres bénédictions. Il aurait été content de le faire, Dieu, comme cela. « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux ? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. » Des siècles plus tard, Paul parla de la tendance humaine à ignorer Dieu et à être ingrat. Romains chapitre 1, verset 21. Romains chapitre 1 et le verset 21. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, action de grâce. Ils n'ont pas fait d'action de grâce pour lui. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Quand, dans Genèse 40, Joseph fut emprisonné pour avoir été faussement accusé par la femme de Potiphar et qu'il expliqua au chef des échansons le songe qu'il avait eu, ce dernier l'oublia. Dans Nombre 16, au verset 13 et 14, est décrit l'exemple de Dathan et d'Abiram, qui méprisèrent ce qu'avait fait l'Éternel et critiquèrent Moïse. Dans 1 Samuel 25, verset 21, il est question de Nabal, qui n'éprouva aucune gratitude envers David et les siens, qui l'avaient protégé, lui et ses troupeaux. Et puis il y a cette histoire. Ecclésiaste chapitre 9, verset 13. Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 13. J'ai vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui me parut grande. Il y avait une petite ville, avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. La Bible abonde en exemples d'ingratitude. Or, la gratitude est un trait important de notre croissance spirituelle. Comment développer cette qualité divine? Nous avons évoqué le fait que, dans l'ensemble, nous autres humains, nous sommes plutôt ingrats. Mais après cette prise de conscience, que devons-nous faire? Ma deuxième suggestion aujourd'hui, c'est que pour posséder la gratitude, nous devons avoir de la vision. Nous devons avoir de la vision. Je ne dis pas des visions, mais de la vision, ce qui est autre chose. La vision dont je veux parler ici est synonyme de sagesse et de compréhension, et elle implique les yeux du cœur. Proverbe chapitre 29 et le verset 18. Proverbe 29 et le verset 18. Je lirai dans la version Osterwald. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Mais heureux est celui qui garde la loi. Et il n'est pas question ici de vision comme la plupart du temps les gens pensent aux visions. Oh, j'ai eu un songe, j'ai eu une vision. Non. À nouveau, il n'est pas question de ce genre de vision. Il est question de perspective ici. Quand les gens ne savent pas où aller, quand ils vont dans tous les sens, ben, il est sans frein, on est sans frein, on fait toutes sortes de bêtises. Mais heureux celui qui garde la loi. Parce que lui a la bonne vision, en quelque sorte. Nous sommes tous dans une période d'entraînement intensif, frères et sœurs, pour une position dans le royaume que nul être humain ne peut imaginer. Pour un avenir glorieux, inconcevable pour nos esprits limités. L'entraînement est très intensif, d'où beaucoup de courses d'obstacles et d'épreuves. Mais nous disposons de tous les éléments dont nous avons besoin pour réussir. Si nous gardons les yeux sur notre mission et sur notre Père Céleste et sur Christ, nous devons voir les choses d'une optique spirituelle. Matthieu chapitre 19, verset 16. Il y a un jeune homme qui, lui, n'avait pas cette optique spirituelle et son exemple est intéressant pour nous aussi. Matthieu chapitre 19 et le verset 16, pour commencer. Comme je le disais tout à l'heure, la gratitude, c'est une façon de vivre. C'est un mode de vie. C'est une mentalité, c'est une philosophie individuelle et personnelle. Matthieu 19, 16, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, sous-entendu la vie éternelle, parce que c'était le contexte, observe les commandements, rappelez-vous, il a dit, hein, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? C'est la question qu'il a posée, donc il est question de la vie éternelle. Observe les commandements. Lesquels ? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Évidemment, tu aimeras ton prochain comme toi-même n'est pas l'un de ces 10 commandements, mais c'est un commandement qui résume les autres. Alors donc, en quelque sorte, ici, il cite tous les commandements, les 10 commandements. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ? Bon là, il se faisait probablement des illusions, je doute qu'il l'ait fait comme il faut. Peut-être que dans une certaine mesure, il le faisait, mais il dit, oh, j'ai fait ces choses, que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, parfait, dans le sens du mur, d'un accompli, parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Mauvaise nouvelle pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas la bonne optique. Il n'avait pas la bonne vision des choses. Il n'avait pas une vision spirituelle des choses. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Ce n'est pas impossible, mais ce sera difficile. Pourquoi ? Parce qu'un riche a souvent les yeux sur ses richesses, sur les biens physiques, matériels. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui donc peut être sauvé ?» Ça a l'air d'être bien difficile tout ça. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre prenant alors la parole lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Bon, Christ parlait ici à ses disciples, mais dans ses lettres, cette église, dans l'Apocalypse, Christ précise que ces postes de gouvernement et de haut dignitaire sont aussi vacants pour nous, pour vous et moi, frères et sœurs. Et pour faire partie de cet avenir merveilleux, nous devons faire de nos vies de perpétuelles actions de grâce et des actions de grâce spirituelles. Paul nous avertit des obstacles humains et relationnels se dressant sur notre route. 2 Timothée chapitre 3 et le verset 1. 2 Timothée chapitre 3 et le verset 1. Sache que dans les derniers jours, nous y sommes, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Intéressant cette phrase. Voilà des gens qui ne cessent d'étudier, qui vont à l'école, qui font des études, et qui pourtant sont incapables de parvenir à la vraie connaissance, à la connaissance de la vérité. Peut-être que leur problème, c'est qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, dont il est question dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et le verset 10. Troisième suggestion pour avoir de la gratitude, frères et sœurs, pour être reconnaissants. Nous devons aussi approcher les épreuves avec l'optique divine. Approcher les épreuves avec l'optique divine. Si nous avons conscience de ce que Dieu accomplit en nous, nous pouvons en fait éprouver même de la joie face à nos épreuves. C'est difficile, mais nous pouvons y arriver lorsque réellement nous commençons à penser comme Dieu le fait. Quand nous souffrons, en général, nous avons tendance à penser à nous, à notre corps, à cette douleur qui est là. Mais Christ nous dit que nous pouvons avoir en fait de la joie dans ces épreuves, quand elles viennent. Jacques chapitre 1, verset 2. Jacques chapitre 1 et le verset 2. Pour la plupart des gens, ça c'est un illogisme. Comment est-ce qu'on peut se réjouir quand on souffre? Mais Dieu nous dit, par l'intermédiaire de Jacques, que c'est possible. Et que c'est ce que nous devrions faire si nous avons la bonne vision des choses, la bonne perspective à nouveau. Jacques chapitre 1, verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie, complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et Pierre dit sensiblement la même chose. 1 Pierre chapitre 1 verset 3, 1 Pierre chapitre 1 quelques pages plus loin, 1 Pierre chapitre 1 et le verset 3, 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Est-ce que nous avons cette vision des choses? Il vous est réservé dans les cieux cet héritage. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Est-ce que cela fait notre joie? Est-ce que nos épreuves font notre joie? De quoi pouvons-nous être reconnaissants, frères et sœurs? Je pensais à plusieurs choses comme cela. De ce que notre Père Céleste et son Fils nous ont créé. Ils sont en train de nous former à leur image. Nous pouvons être reconnaissants de cela. B. De la vie. Reconnaissants de la vie et de notre potentialité. C. De notre esprit humain et de notre liberté de choix. D. Reconnaissants de nos parents, même si nos rapports n'ont pas été les meilleurs. Nous avons appris quelque chose d'eux. E. Reconnaissant des leçons que nous apprenons dans la vie. F. Reconnaissant de la miséricorde divine. G. Reconnaissant de nos frères et sœurs. H. Reconnaissant de ce que la plupart d'entre nous avons un toit et même souvent assez confortable. I, reconnaissant des libertés que nous avons. Même si dans certains pays, il n'y a pas autant de libertés, en général, nous avons quand même pas mal de libertés. J, reconnaissant pour nos enfants. K, reconnaissant de la nourriture que nous avons. Et à nouveau, je sais que nous avons des frères et sœurs dans le monde qui, dans certains endroits, n'ont pas beaucoup de nourriture. Mais pour beaucoup d'entre nous, nous devons être reconnaissants de cette nourriture que nous avons. Et que dire de notre compréhension de la voie divine? M, reconnaissant de la splendeur de la création divine. N, reconnaissant de l'incroyable trésor que sont la loi et l'amour divin. O, reconnaissant de notre santé, je sais, il y en a parmi nous qui sommes éprouvés dans notre santé, mais en règle générale, et bien souvent, nous pouvons être reconnaissants à Dieu de notre santé. P, reconnaissant de nos ennuis de santé qui nous enseignent quelque chose. Q, de la paix que nous jouissons, reconnaissant de la paix que nous jouissons. R, reconnaissant des autres êtres humains et de ce qu'ils nous apprennent. S, reconnaissant de la vérité et de ses résurrections, ou des résurrections. T, reconnaissant de ce que Dieu n'est pas comme les faux dieux de la mythologie. U, reconnaissant des anges qui veillent sur nous et nous protègent. V, reconnaissant du Saint-Esprit. W, reconnaissant des formes d'art et de la créativité. X, reconnaissant de notre aptitude à apprécier la beauté. Y, reconnaissant de la merveille que notre corps a de tout ce que nous pouvons faire avec nos mains. Z, reconnaissant de nos conjoints. 22 déjà, plus assez de lettres. Il va falloir trouver un autre système pour compter nos bénédictions. Éprouvons-nous aussi une profonde gratitude pour notre travail ou notre occupation et ce qu'il nous enseigne, pour le fait que la plupart d'entre nous, nous pouvons rentrer chez nous chaque soir pour ce qu'est le repentir, pour ce qu'est la conversion, pour les bénédictions que nous recevons de l'Église, pour le fait que le péché est ce qu'il est et la justice divine ce qu'elle est, pour la vérité, pour le caractère, pour notre planète, pour l'air que nous respirons, pour nos cinq sens, pour les plaisirs de la vie, pour le rire et l'humour, pour l'émotion, 14 de plus, etc., etc., etc. Quatrième suggestion que je voudrais vous faire aujourd'hui pour avoir cette gratitude, pour développer cette gratitude en nous. Nous devons fournir de gros efforts pour acquérir cet esprit de gratitude parce que c'est un trait divin spirituel. En d'autres termes, avoir les yeux fixés sur le fait que c'est un trait divin spirituel. Nous devons savoir que c'est un trait divin spirituel. Remercions-nous Dieu de tout notre cœur pour son amour et sa miséricorde. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Psaume 100, versets 3 à 5. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. 1 Chronique, chapitre 16, versets 8 et versets 34 et 35. Exprimer sa gratitude, être reconnaissant, faisait partie intégrante du culte du temps de David. Cela faisait partie de la vraie religion et cela fait partie de la vraie religion. Il est écrit dans Néhémie 12, par exemple, Néhémie 12 et verset 46, « Autrefois, du temps de David et d'Asaph, on avait établi des chefs des chantres et des cantiques de louanges et d'actions de grâce à Dieu. » C'était prévu dans le culte. Dieu veut que nous apprenions à être reconnaissants, que nous éprouvions de la gratitude. C'était prévu dans le culte, dans l'Ancien Testament. Ésaïe, parlant du monde à venir, du royaume de Dieu, a annoncé ce qui suit. Ésaïe chapitre 51 et le verset 3. Ésaïe 51 et le verset 3. L'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Un jour, nous allons connaître ce monde. Et cela, nous devons nous en réjouir, être reconnaissants à Dieu de son plan. Oui, nous souffrons souvent aujourd'hui, c'est vrai, ce n'est pas facile d'être humain. Ce n'est pas facile d'être dans la chair. Nous souffrons souvent, soit physiquement, soit mentalement. Mais nous souffrons, c'est notre cheminement. Mais si nous avons les yeux sur l'avenir, là nous pouvons réellement être reconnaissants et éclater en actions de grâce. Il y aura un jour beaucoup d'actions de grâce, pas seulement une fois par an pour une fête en octobre ou en novembre, mais infiniment plus souvent. Jérémie lui aussi annonça ce qui allait se passer si Israël écoutait Dieu, le prenait au sérieux. Et ce qu'il a dit était prophétique, car un jour tous les hommes écouteront Dieu. Jérémie chapitre 17, verset 24. Jérémie chapitre 17 et le verset 24. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous m'écoutez, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée, de la montagne et du Midi, pour amener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et de l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. C'était prophétique. Cela ne s'est jamais réellement beaucoup passé dans l'Ancien Testament, mais c'est prophétique, c'est ce qui va se produire. Les meilleurs sacrifices d'action de grâce sont les sacrifices spirituels, notre attitude, notre amour pour Dieu et pour sa voix. Quand on aime Dieu de tout son cœur, on ne peut s'empêcher de lui rendre grâce, de le louer, de le remercier avec enthousiasme. En ce 21e siècle, nous participons, nous, à la dédicace d'un temple spirituel infiniment plus magnifique, plus glorieux, étant le temple de Dieu, son corps, son Église, son épouse. À combien plus forte raison ne devrions-nous pas éclater de joie et de reconnaissance en action de grâce ? Comme David, nous pouvons nous exclamer « Béni soit le Seigneur, qui tous les jours nous comble de ses biens ». Le Dieu fort est notre délivrance. Psaume 68 et le verset 19, version Martin. Pour dire cela, il faut avoir les regards fixés sur ce qui est spirituel. David savait louer l'Éternel. Ses psaumes ont de quoi nous inspirer. Ses psaumes ont de quoi nous inspirer. Notez et lisez plus tard le psaume 111, ou 116, pardon, le psaume 116. Lisez le psaume 116, les versets 12 à 19. Psaume 116, versets 12 à 19. Nous célébrerons bientôt non pas un jour d'action de grâce, mais un millénium d'action de grâce. Sachons, comme David, être emplis de reconnaissance et de gratitude envers notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ. Lisons le psaume 104. Le psaume 104, faites cela chez vous. Lisez le psaume 104, qui est un joli psaume. Et lorsque vous le lirez, vous verrez que cela vous donnera envie d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude. Quelle est en fait notre meilleure action de grâce aux yeux de notre Père céleste, frères et sœurs? Celle de le glorifier en lui obéissant, en pratiquant sa grande loi, en le glorifiant par notre attitude et notre comportement. Dieu nous dit de nous réjouir. Mais de quoi nous réjouissons-nous le plus? De le connaître? De sa loi? De son amour? De son plan magistral? Jésus posa un jour la question suivante à ceux qui l'écoutaient. Luc chapitre 6 et le verset 46. Reportons-nous à Luc 6 et le verset 46. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il parlait de la véritable action de grâce. Faire ce qu'il dit est l'ultime action de grâce. C'est ce qui le réjouit le plus, parce que c'est ce qui le glorifie et glorifie notre Père céleste et nous permet d'accomplir notre potentialité humaine. En effet, dans quel contexte dit-il cela? Allons en arrière maintenant d'un verset, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Notre cœur est-il abondant? Abondant de choses spirituelles? Et qu'avait-il dit avant cela? Quelquefois, c'est bien de lire un verset et puis après de remonter. Qu'est-ce qu'il t'a écrit avant? Quel est le contexte de ce verset? Qu'est-ce qu'il a dit avant de faire telle ou telle déclaration? Et versets 43 et 44, ils disent « Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. » 1 Jean chapitre 1, verset 5. 1 Jean chapitre 1 et le verset 5 maintenant. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont en communion avec lui. Mais ils ne le sont pas. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Notre plus belle action de grâce n'est-elle pas de marcher dans la lumière, frères et sœurs? N'est-ce pas un cheminement de tous les jours? Christ disait « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Jean déclare ceci, 1 Jean chapitre 2 maintenant, chapitre 2 et le verset 3. 1 Jean chapitre 2 et le verset 3. « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Notre plus belle action de grâce est de marcher dans la lumière. Puisse chaque jour que l'Éternel nous donne être un jour d'action de grâce. Je vous souhaite à tous, frères et sœurs, une bonne fin de sabbat. Et je vous dis bon courage, au revoir et à bientôt.